Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Chiffon est réalisé avec le soutien de Birchbox. Pour fêter l'arrivée du printemps, Birchbox est associé à la marque Les Petites pour créer une box qui va vous filer la pêche. Dès ce 1er mars, pour 13 euros et sans engagement, vous recevrez une pochette en velours rose poudré dans laquelle Birchbox a glissé 5 essentiels beauté adaptés à votre peau. Dans la mienne, il y avait un pinceau Spectrum, un exfoliant de la marque Luxlem pour le cuir chevelu, un lait crème Embryolisse, j'adore cette marque, et une crème de corps Rituals. Et puis, comme dirait Mathilde Lacombe, un peu de pêche sur les joues, les lèvres et les yeux, et c'est parti. Pour saluer le printemps avec élégance, je vous donne rendez-vous sur le site www.birchbox.fr. Et si vous passez une commande de la part de Chiffon, vous aurez un produit de la marque Benefit glissé dans la pochette. Alors, rendez-vous sur le site et n'oubliez pas le code Chiffon. Allez, place à notre invité du jour.
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon? Robe ou smoking? Mini-jupe ou jupe midi? Talons ou baskets? Et vous, messieurs, plutôt costume 3 pièces ou t-shirt et jean? Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime? Et qu'est-ce que l'élégance? Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous?
Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Qu'est-ce que c'est que l'élégance? Beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une journaliste de mode qui s'intéresse autant aux problématiques de genre qu'à la famille Kardashian. Alice Pfeiffer décrypte la mode, mais d'un point de vue plutôt anthropologique et sociologique. Pour elle, on peut parler de mode de façon intelligente, politique et engagée, car la mode est surtout un miroir de notre époque. Elle travaille au magazine Antidote, elle officie aussi chez Radio Nova et Les Inrocks. Pour elle, la mode est devenue une mise en abîme géante et un poil cynique. Parlez-lui de féminisme, elle est intéressable sur le sujet. Parlez-lui de mythe de la parisienne, sa réponse détonne. Bref, mon invitée est aussi cultivée, passionnée, passionnante qu'engagée. Bonjour Alice Pfeiffer.
Bonjour et merci beaucoup pour une si jolie intro.
Alors, est-ce qu'elle te convient, cette description?
Oui, tout à fait. Alors, pour Antidote, j'étais rédactrice en chef et je suis maintenant éditeur at large, ce qui veut dire que je travaille à la fois sur le magazine et sur le print. Et sinon, je papote et j'écris des trucs un peu partout dans Paris. Je cours partout et je mange tout le temps, globalement.
J'ai oublié une chose. C'est que en 2017, le magazine Technicart t'a même proclamé rédactrice en chef la plus engagée du moment.
Ah, ça m'a fait très plaisir. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça me fait quand même très plaisir.
Bah, tu n'as pas la langue dans ta poche, en fait.
Mais on en fait de son mieux.
C'est ça qui est agréable.
Bah, on essaye, hein, on se dit, sans blesser ou rentrer dans un truc bitchy, comment est-ce qu'on peut dire un truc que finalement tout le monde pense un peu, mais que personne dit parce que c'est. On a très souvent le couteau sous la gorge, parce que c'est quand même un milieu de courbettes. Et donc, sans tomber dans un truc vilain et cours de récréation, comment est-ce qu'on peut quand même parler de plus grandes questions? J'essaye, du moins.
Bon, il faut dire aussi que quand tu as un esprit critique ou pas, tu as un parcours universitaire et professionnel plus qu'intéressant, ce qui te permet d'argumenter. Et c'est ça que j'aime chez toi.
Mais c'est nécessaire, je pense. Hein. Sans bagage théorique, on est quand même assez limité dans beaucoup de déconstructions et de questions. Et il nous faut, malheureusement, c'est pas des choses qu'on sort du néant dans sa tête. C'est que c'est quand même des. Il faut un tout petit peu de bagage théorique et de le bagage technique presque pour pouvoir se poser certaines questions auxquelles on n'arrête jamais de s'éveiller. Hein. C'est au fur et à mesure des années, on continue soi-même à se questionner, à essayer de comprendre est-ce qu'on fait partie du problème qu'on décrit, se questionner notre propre regard, notre propre attirance pour des questions. Donc c'est effectivement c'est sans lecture, c'est impossible à faire.
Alors j'ai oublié de dire également que tu as travaillé pour Arte, pour Le Monde,
ouais.
Pour Guardian,
ouais.
Et que tu excelles en danse du ventre.
Ah, tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce serait sûrement de l'appropriation culturelle, mais en fait, la danse du ventre, ça vient du fait que j'ai une éducation juive et que j'étais donc longtemps au Talmud Torah, ce qui est l'équivalent du catéchisme pour les feuges, et surtout, j'étais en colo juive. Et là-dedans, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles séfarades, plus qu'il y a très peu. Plus beaucoup d'Ashkenazes qui restent en Europe, les pauvres. Et du coup, j'avais une culture nord-africaine qui m'était très familière, alors qui n'est pas vraiment la mienne parce que ma mère est roumaine, mais à laquelle finalement j'ai été exposée, dans laquelle j'ai baigné très vite. Du coup, j'ai fait beaucoup de bar mitzvah séfarade, où il y avait des danseuses du ventre, où il y avait de la nourriture tunisienne, marocaine, algérienne. Donc, très naturellement, la première danse que j'ai faite, c'était de la danse du ventre, ce qui est un peu drôle quand on est une fille d'Europe de l'Est comme moi, mais effectivement, ça a été mon premier presque club.
Alors, tu es journaliste de mode, c'est Londres qui t'a forgé à la mode, c'est ça ?
C'est Londres, et c'est plus globalement, c'est l'Angleterre. En fait, j'étais en internat.
Tu fais une différence entre Londres et l'Angleterre ?
Oui, bien sûr. Il y a la culture londonienne, qui est une culture où c'est une grande métropole avec tous les créateurs de mode et toutes les tendances, les fashion week, énormément de choses qui se passent. Mais moi, en fait, le premier rapport que j'ai eu à la mode, c'était pas du tout à Londres, c'était dans un village à l'extérieur de Brighton, dans un internat où j'étais, donc j'étais en pension. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est contrairement à, cette phrase est complètement pourrie, il va falloir la couper.
Ce n'est pas grave. On ne coupe rien.
On coupe rien.
Tu étais à Brighton.
J'étais dans un village près de Brighton. J'avais été à l'école à Paris où j'avais senti un truc qui était terrible en France, c'est qu'il y a très tôt, les enfants deviennent une espèce de faire-valoir des parents. Et donc on voit très vite, on annonce très vite d'où on vient, sa classe sociale, ce que font les parents, on situe très vite les enfants par leurs baskets, leurs cartables, leurs habits, etc. Et à Londres, on est tous en uniforme. Et du coup, la seule marge d'expression, ça va être des toutes petites variations sur une base qui est à peu près égalitaire. Donc on est tous en kilt, on est tous en cravate, en blazer, en chemise, les garçons aussi, et on exprime nos préférences stylistiques par exemple, la largeur du pantalon de costume que va porter un garçon. Par exemple, en période skate, tous les garçons portaient le bas de costume en 13XXL. Les kilts étaient coupés discrètement, roulés, ou au contraire portés jusqu'à par terre. Et c'est là qu'on comprenait une appartenance culturelle qui n'était pas liée à l'argent des parents, en fait.
Tu m'avais parlé aussi de la coiffure, hein.
La coiffure.
Les filles se démarquent avec la coiffure et les piercings qu'elles faisaient elles-mêmes.
Ah oui, c'est tous les gestes externes et choisis qui deviennent des vrais marqueurs et pas seulement ce que nos parents peuvent nous acheter. Et donc, ça va aller être les filles qui se font des undercuts, donc qui se rasent le dessous de la tête, mais qui ne va pas se voir quand les cheveux sont détachés. Ça, c'est des gestes punk camouflés dans l'uniforme, des piercings. À la langue, au nombril. Moi, j'avais un piercing à la langue, je me souviens, et j'avais donc développé toute une façon de parler pour pas que les profs le voient, donc je parle un peu comme ça. Des piercings dans le nez, plus ou moins transparents, pour pas qu'ils soient apparents. Le piercing au septum qu'on remonte quand c'est un espèce d'anneau fer à cheval. Donc il y avait cette culture-là de détournement punk à moitié visible, et surtout c'était des gestes choisis qui s'ancraient dans une culture plus large que juste être jolie. Donc c'était ça, se rallier souvent à un courant musical, un courant culturel, ce qu'on aimait de façon plus vaste que juste se mettre en avant et mettre en avant sa minceur, sa richesse, sa beauté.
Tu avais quel âge à l'époque ?
14 ans.
14 ans. Alors tu m'expliques que quand tu es rentrée à Paris à 20 ans, c'est ça,
ouais,
de mémoire, hein, tu me dis si c'est faux, tu as été frappée par le jugement des Parisiennes, justement, de tes copines qui ont commencé à te... La première chose qu'elles t'ont dit, c'est t'as grossi.
Ah bah, c'est ça, c'est que je suis partie de 14 à 24 à peu près, je suis revenue pour travailler à Paris, j'avais fini mes études et en fait, grosso modo, j'ai fait toute mon adolescence ou les années clés de mon adolescence en Angleterre et je me souviens, je suis sortie du train de l'Eurostar, et j'ai une première chose qu'une copine m'a dit, elle m'a dit « Ah, mais t'as vachement grossi !» Et en fait, oh oui, j'avais grossi, mais le plus intéressant, c'est que j'avais pas remarqué. Parce qu'en fait, en Angleterre, c'est personne ne va te le dire. Ils vont te dire, parler une fois de plus d'attributs que tu as pu modifier ou d'attributs dont tu es responsable. Donc, on va te dire, j'adore tes cheveux, ce que tu as fait à tes cheveux.
Oui, c'est plus positif, on va dire.
Oui,
c'est
déjà, il y a un truc d'empowerment. Tous les filles vont te dire, you go, girl, et tout. Ou elles vont te dire, ah là là, c'est super, la couleur de cheveux, tes baskets, tes trucs, girl power. Personne dans cette culture protestante va prendre le temps de venir te dire, tes cuisses ne sont pas à la norme que j'avais attendue. Mm. Et là, il y a une espèce de proximité entre toi, ton corps et tout le monde, donc ton corps appartient vraiment au regard national et à la rue et à la société. Où moi je me souviens, le serveur de brasserie où on était allé en arrivant pour manger m'a dit, oh, vous allez pas prendre des frites quand même.
Mais non.
Il m'a dit, moi je voulais reprendre des frites parce que les portions françaises sont absolument absurdes et que j'avais un tout petit peu de frites avec une entrecôte et que j'ai demandé plus de frites parce qu'en Angleterre je mangeais beaucoup de frites. Il m'a dit, oh. Et là c'était pour rigoler avec un clin d'œil, donc j'ai compris qu'à moitié c'était enrobé d'une espèce de culture de drap galant très chelou. Il a tapé comme ça sur, ce qui aurait été ses hanches. Il m'a dit, attention. Et je me suis dit, mais c'était quand même incroyable qu'à ce moment, il avait fait de mes cuisses son affaire. Mm-hmm. C'est quand même fou.
C'est choquant,
mais c'est français. L'apparence des femmes est une fierté nationale et donc appartient un peu au regard de tout le monde. Et tout le monde a le droit de s'auto-surveiller. C'est Foucault qui disait que quand il n'y a pas besoin de réguler la population et de surveiller la population, le moyen le plus efficace, c'est qu'elle se surveille elle-même. Il dit ça dans Surveiller et punir, et il dit il faut une surveillance internalisée. Et quand tu deviens ton propre garde et que tu continues à développer un sens de honte, de gêne et de regard externe, même quand personne ne te regarde, c'est là où la population se tient le plus sage dans sa place. Et j'ai vraiment l'impression qu'en France, c'est ça. C'est-à-dire que
regarde les femmes qui accouchent maintenant, leur objectif, c'est de rester mince.
C'est comment ? C'est de rester mince ?
De rester mince après avoir accouché.
Ah ben tout le temps, c'est peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut que tu gardes un corps enfantin, pré-maternel, une apparence bourgeoise, une bienséance, pas lâcher un gros mot, pas lâcher ou si c'est un gros mot, c'est un gros mot extrêmement bien calculé, mesuré, jamais trahir une origine sociale qui serait autre chose que bourgeoise. Donc non, c'est vrai qu'il y a une honte de soi qui est extrêmement pesante en France.
Alors comment t'as atterri dans la mode ?
Eh ben, je bossais, alors c'est très chic dit comme ça, mais je bossais pour le bureau parisien du New York Times.
Ah, je l'avais oublié celui-là.
C'était ton CV. Ouais, non, c'était le tout premier. Et c'était, je crois que j'ai naturellement assigné des sujets dits féminins. Donc je me suis retrouvée à écrire pour les pages luxe, joaillerie, mais en même temps ça m'intéressait pas du tout. Et deux, je me reconnaissais pas non plus ni dans l'aspiration, ni dans la consommation, je me reconnaissais dans cette femme décrite ou cette femme visée, c'est-à-dire que j'allais ni être cliente et je rêvais pas de l'être non plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui peut être amusant à couvrir, qui me parlerait à une cliente qui se sent complètement hors de ces pages-là. Et donc j'ai écrit premier article, je crois que c'était pour le luxe, le marché du luxe pour animaux, et j'avais découvert des trucs genre Château Poochy, qui est un vrai château qui a été construit en Amérique pour chiens. Et alors, il y a des webcams sur les murs pour qu'on puisse dire bonne nuit, on peut faire des Skype avec le chien, il y a des pédicures qui sont des pédicures pour les pattes du chien, activité défilé de mode pour le chien, teinture des cheveux blancs de chien, c'est quand même extrêmement drôle. Et ça, c'était avant le crash boursier, donc il y avait encore un marché pour ça.
Il y avait encore de l'argent. Okay. Mais en fait, ça fait réfléchir sur la société quand même. Et sur,
C'est hyper intéressant. C'est quand même, en outil sociologique, c'est quand même fascinant de se dire où en est arrivée la culture capitaliste et la présentation de soi par l'achat pour qu'on en vienne à en bijouter son chien. C'est Thorsten Veblen qui s'appelle ça Vicarious Ostentation et qui a dit l'homme dans la société industrielle, en gros, a arrêté de s'en bijouter lui-même parce qu'il travaille et du coup, pour montrer son succès, il en bijoute femme et enfant. Et là, il y a une espèce de glissement où est-ce qu'on se marie moins longtemps, est-ce que le chien devient une espèce de substitut de l'enfant, mais clairement, les animaux de compagnie sont traités comme des enfants et des statuts sociaux.
En fonction des races de chiens aussi. Il y a des codes en fonction des races de chiens.
C'est pas n'importe lesquels. Ils ont des noms qui en disent long sur le propriétaire aussi. C'est très intéressant de se dire comment on traite tous les gens qui nous entourent et quel facilitateur et quel dialogue on crée entre Nous, le vêtement et la personne qu'on est en train d'habiller, ça c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour...
C'est pareil, en ce moment, on regarde le nombre d'enfants qu'on voit sur Instagram, des gens postent...
La mise en scène de l'enfant
la
sur
mise
Instagram,
enfant.
Bien sûr.
Ça fait réfléchir.
Quand même. C'est un symbole de réussite aussi, comme un autre, c'est dire ma fille est comme moi en miniature. C'est tout ton patrimoine et ta filiation que tu es en train de raconter via ta fille. C'est regarde comme j'ai des bons gènes, regarde comme j'ai bien bossé, regarde ma transmission, toute traduite en une petite personne très jolie qui est comme mini-moi.
Mais ça, toi, quand tu vois ça, ça te fait peur, ça te fait marrer, ça t'horrifie, ça t'indiffère ?
Bah en fait, je pense que c'est pas la faute aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que on croit toujours que le scandale est lié directement et créé par le réseau social. Le réseau est juste le signe et la dernière expression en date de phénomène profondément humain. C'est-à-dire que la fille qui met en scène son gosse, bon, aujourd'hui c'est sur Instagram, demain ça sera sur autre chose. Avant, il y avait des beauty pageants, des concours de Miss. D'ailleurs, ça se fait toujours pour les enfants. Oui. Le désir de s'affirmer via un autre, il vient un autre petit qu'on a modelé à son image. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Non, c'est le processus complexe du narcissisme et de la femme qui vieillit, entre grosses guillemets, dans une société qui est complètement agiste aussi. C'est qu'on n'est pas du tout habitué à des représentations valorisantes et tout simplement et désirables dans la façon la plus classique et normée du terme de femmes qui ont plus de 40 ans, globalement. C'est, la société est extrêmement dure.
Ah, mais on n'a plus le droit d'avoir plus de 40 ans maintenant.
Et puis le compliment, c'est que ça ne se voit pas. C'est ça qui est terrible. C'est un homme, on ne va jamais lui dire ça. Comme tu es beau, tu as l'air d'avoir moins de ton âge. Ça n'existe pas du tout. Au contraire, le récit de sa vie se lit souvent sur son corps. Il a été puriné par la vie, il a été bronzé par le soleil, de, je sais pas où, il est parti en expédition, etc. Et la femme, c'est magnifique. Si elle arrive à simuler une forme de jeunesse qui
est éphémère en plus.
Et qui est éphémère, et puis une espèce de mimétisme de jeunesse plus vaste. Donc c'est vrai qu'on met les femmes se trouvent face à ce problème qui est véritable. C'est le corps de la femme post-enfant est systématiquement dévalorisé. Et on la félicite effectivement si elle n'a pas pris de poids, si ça ne se voit pas sur son corps, si elle a encore l'air d'avoir 20 ans à tout jamais. Moi, je trouve ça très très dur.
Et qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique, tout ce qui est injection, botox, etc. Est-ce que tu crois que toi, tu en feras ou non ?
Alors, en fait, pour moi, on ne doit... On est absolument libre de faire absolument ce qu'on veut de son corps. C'est-à-dire que je suis pour se maquiller si on veut se maquiller.
Tu n'es pas dans le jugement du tout, en fait. Tu es dans l'analyse.
Je pense qu'il faut réfléchir. On est dans une société qui a prédominance visuelle. Donc, comme on dit, you can't be what you can't see en anglais. On croit à ce qu'on voit très littéralement. Donc, l'apparence, on ne peut pas nier le poids qu'aura l'apparence et la lecture de notre apparence sur la société. C'est pas vrai. On ne peut pas se retirer. On vit dans un corps. À nous de le modeler à notre guise, pour qu'on se sente mieux. C'est pas à moi de dire à une fille, non, tu es obligée de te sentir bien, pas maquillée, sans sport. Je suis pour toutes les réappropriations de ce qu'on veut pour nous faire sentir mieux. Après, moi, il y a une autre question qui est plutôt dans la question de la beauté, c'est la question coloniale de la beauté. C'est-à-dire que en fait, les modes de chirurgie esthétique sont des modes qui blanchissent les traits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut parler d'une comment dire... je me perds un petit peu dans ma phrase,
Je te suis.
Grosso modo, ce qu'on appelle l'embellissement, les normes de chirurgie esthétique, sont des normes occidentales. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant blanchi, entre grosses guillemets, les femmes que quand on a commencé à faire, à tout lirant des tout petits nez, qui découlent de normes complètement coloniales, en fait. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on peut plutôt le processus de décoloniser les normes de beauté. Les corps vers lesquels visent les femmes. Bon, maintenant, il y a un peu pour les fesses, des opérations pour les fesses. Mais c'était une façon d'occidentaliser les corps et de rejeter tout autre critère qui ne serait pas celui d'une meuf blonde aux yeux bleus, mince, jeune, avec un mini nez. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. C'est la question de comment est-ce qu'on s'ouvre à beaucoup de genres de beauté qui ne sont pas des beautés qui découlent directement de normes. De normes coloniales, je me répète, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que être plus belle, c'est quoi ? C'est faire enlever un nez qui serait un nez qui raconte toute une histoire sémite.
Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui ont le nez un peu proéminent avec des bosses, qui
se font enlever aussi. Mais ça dépend des cultures, c'est-à-dire qu'il y a des cultures sémites qui ont plus de nez. Et s'embellir, ça veut dire enlever toute cette partie de son histoire, si se faire de la liposuction, ça veut dire effacer un corps méditerranéen qui est finalement partie de notre famille, qui fait partie de... C'est l'histoire d'énormément de femmes sur tout un continent. Ce qu'on imite, c'est pas tellement beau que...
C'est se renier un peu, en fait.
Que blanc. Bah, moi, je pense qu'il faut accepter les beautés telles qu'elles sont. Et les beautés racontent nos histoires à nous, et des histoires locales, et des histoires, et des histoires internationales qui sont pas dans celles de l'industrie extrêmement limitée, américanisée, de la beauté, des dents très blanches, du petit nez retroussé, des cheveux lisses.
Pour moi, c'est plutôt des lèvres ça. Parfaites aussi.
De tout parfait. Pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut questionner. Mm-hmm. Que toi, la reprise de contrôle sur ton corps, tu en fais absolument ce que tu veux. Hein. C'est pas la société ou aux femmes entre elles de s'interdire des choses.
Alors, pour revenir à la mode, ce que je disais dans l'introduction, tu as déclaré que la mode est devenue une mise en abîme géante et un poil cynique. Qu'entends-tu par là ?
Alors, je pense que... Non, je pense qu'il y a une forme de disons, avec le politiquement correct qui est rentré en vigueur, on peut beaucoup moins citer de peuples étrangers qu'avant. On peut beaucoup moins aller faire son marché à travers des continents lointains, et donc on a développé, on a déplacé le besoin qu'a la mode d'exotisme vers un exotisme de proximité et vers des codes non plus racistes mais classistes. Et donc voilà, le problème que j'ai, que je trouve très cynique, c'est que on voit énormément de signifiants qui sont des signifiants populaires être mis en avant, des tout genre de sacs, de tatanes de piscine, de chaussures, de chaussettes, de trucs qui sont des choses...
Mais tu parles des injonctions de la mode, un peu. C'est-à-dire que là, voilà, on déclare que tel sac devient un heat bag. C'est ça, en fait. Bah, plutôt, tu parles des chaussures de piscine aussi, c'est... Voilà,
plutôt des objets qui n'ont été que beaux une fois qu'ils ont été réappropriés et relus par le luxe. C'est-à-dire que c'était des objets qui étaient vidés de tout esthétisme, soi-disant, par le regard dominant. C'était des objets que fonctionnels, qui soudain sont devenus beaux une fois qu'il y a eu quelqu'un, une marque de luxe qui les imitait de façon un petit peu cynique. Du coup, non, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un jeu avec... On rigole des pauvres, hein, globalement, pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui me pose problème un petit peu. C'est qu'on on va reprendre des codes dits beaufs en France, ou dits pauvres, ou dits... blédard, ou que des mots qui sont extrêmement problématiques en France, parce qu'ils racontent toute une histoire de absolument aucune d'une méritocratie en panne et d'une inclusion sociale qui ne fonctionne pas, et on en fait des objets de luxe. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais...
Non, mais de toute façon, l'ascenseur social est complètement en panne aussi.
Complètement en panne, et en même temps, on va rire, on va avoir... on va faire des...
Un sac Balenciaga qui est dérivé du sac des migrants qu'on va vendre 2000 euros.
On va trouver des filles de la télé-réalité, qu'on va s'amuser à relooker, on va trouver hyper chic une fille qui a un passé... un peu olé olé, mais qui vient d'une famille super... Enfin,
c'est... oui, ça aussi, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
On va se réapproprier et des gens, et des codes, et des... Et des
si les émissions comme les Marseillais à Cancun, par exemple, des choses comme ça.
Bah, très souvent, on va faire défiler une fille là, le temps d'une saison, on va se dire, ah là là, c'est merveilleux, avec son charme de cagole. Je pense que la mode est...
Cynique.
Cynique, et je crois qu'il y a vraiment un classisme, donc un racisme de classe exacerbé, qui moi me perturbe beaucoup, disons.
Tu parlais aussi, alors on s'éloigne un petit peu, mais c'est très très intéressant, des cours d'éloquence dans les universités qui te choquent pour que les jeunes perdent leur accent de banlieue.
Alors, bah, c'est sûr qu'en France, dans tout ça, on a un vrai problème de glottophobie, qui est donc le racisme des accents, et ce qu'on appelle l'accent neutre en France est en fait un accent profondément bourgeois parisien. En Angleterre, on pourrait entendre un accent de Manchester à la télé, par exemple. En France, jamais on aurait quelqu'un qui a un accent marseillais, toulousain, à présenter les nouvelles. Quelqu'un qui a un accent dit de banlieue. C'est évidemment, le mot banlieue pose problème parce que c'est la banlieue est diverse.
Ça ne veut rien dire.
Mais ça se traduit même jusqu'à des films comme le film Eloquentia, qui m'a posé plein de questions, c'est-à-dire que c'est un film qui donc va à Paris 8 Alors oui, c'est l'université de Saint-Denis, mais c'est surtout une excellente université qui a été, dont le département de Gender Studies a été fondé par Hélène Cixous, qui a eu des personnes comme Frantz Fanon ou Édouard Saïd ou Aimé Césaire venir parler, qui sont étudiés. Donc il y a un programme qui est vraiment à gauche, vraiment progressiste. Et en fait, le cours, et non pas leur apprendre à perpétuer ce savoir, mais c'est plutôt...
Sur l'étude des genres, donc
sur, parce qu'ils sont très bons en post-colonial studies, en littérature francophone, en littérature africaine. Enfin, ils sont très, très forts. Mais il y a un concours qui leur apprend à... C'est un concours d'éloquence qui leur apprend à perdre leur accent de banlieue ou étranger. Et c'est là où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et en fait, là où c'est plus ambigu que ça n'a l'air, c'est que la personne qui dirige, dans le film j'oublie son nom, mais la personne qui dirige le concours me dit, mais vous croyez quoi? Alors on me dit, oui, effectivement, on m'a accusé de mépris de classe, mais en fait, vous croyez que vous allez être avocat au barreau avec un accent de... Si vous avez grandi en Seine-Saint-Denis, vous pensez vraiment que vous allez pouvoir... Le tout avec un nom étranger? Vous pensez que vous allez pouvoir parler avec un accent non parisien, non bourgeois? Il me dit, c'est mort, en fait. C'est moi, je sais que si vous voulez, aujourd'hui, avoir un succès et suivre un cheminement un peu plus élitiste, cet accent-là va être un frein. Alors évidemment, ça pose énormément de questions de pourquoi est-ce qu'on est encore là, pourquoi tout marqueur non bourgeois fait tellement peur. Il n'y a qu'en France où le mot arriviste est une insulte. Je veux dire, c'est dans tout autre pays, ça s'appelle un success story. En France, ça fait rire. Ça pose quand même énormément de questions sur pourquoi ce serait risible d'avoir une progression sociale.
Alors pour toi, pourtant, toi, tu évolues quand même dans un milieu qui est quand même roi de l'entre-soi.
Le milieu de la mode. Tout à fait. Oui, c'est vrai.
Comment le vis-tu?
Alors, évidemment, il faut, comme je disais au début, il faut toujours se remettre en question, c'est-à-dire voir de quel privilège on use, qu'est-ce que ça veut dire que moi, en tant que fille blanche et bourgeoise, me pose ces questions-là. Est-ce que je suis en train de voler un combat qui n'est pas le mien? Est-ce que je suis en train de m'approprier quelque chose? Est-ce que je suis en train d'avoir... des commandes et tout un métier qui marche en finalement prenant des questions dans lesquelles je ne suis pas directement victime. Alors ça, j'en suis évidemment consciente que je suis une bobo, mais j'essaye de le faire de façon à ne pas que traiter la mode comme le luxe parisien. Disons, j'essaye d'étendre au maximum, de regarder le vêtement dans toute son horizontalité, et toute sa largeur, c'est-à-dire que j'essaye de regarder toutes les gammes de prix, tout genre de salon, que ce soit de la mode éthique, de la mode...
Je te coupe, d'ailleurs, dans Antidote en 2016, tu déclares, je m'intéresse aux vêtements dans toutes ces sphères différentes.
Oui, c'est ça, ce qui m'intéresse vraiment, c'est donc le point de départ étant l'uniforme anglais, et ses réappropriations et ses détournements, je m'intéresse autant à ça qu'au marché de la mode dite modeste. La mode religieuse.
Qu'on entend par marché de la mode dite modeste.
En fait, la mode modeste, c'est quelque chose qui est né, en fait, c'était le premier marché, étaient les juifs orthodoxes qui avaient des normes et des demandes qui étaient assez simples. Bon, elles ont besoin de vêtements qui sont assez longs, qui couvrent les poignets, qui couvrent les clavicules. Et donc, qui a explosé quand c'est surtout ça a commencé à viser de plus en plus ouvertement un marché musulman. Et là, s'il y a eu une terreur politique, les gens ont eu très très peur. Mon Dieu, ces femmes en hijab, le retour du voile, etc. Alors qu'en fait, c'est un marché qui est super vieux et le corps couvert n'appartient pas à seulement la religion musulmane. Hein, c'est toutes les religions. Dans toutes les religions, les femmes pieuses en général sont couvertes. C'est pas c'est la même chose chez les juifs. Les femmes juives portent une perruque. Mais c'est vrai que ça fait énormément de bruit au moment où Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes, s'est dit a découvert que certaines marques fabriquaient des hijabs. Et c'est un scandale pour elle, c'était terrible. Alors qu'en fait, c'est un marché qui est pas du tout neuf et
qui a toujours existé en fait.
Bien sûr. Et puis, si ce n'était pas déclaré tel quel, il y avait évidemment des marques qui fournissaient exactement, qui fournissaient ces femmes-là avec ces besoins-là.
Alors, tu déclares autant écouter Skyrock que France Culture.
Ouais, et Génération plus ces jours-ci, mais oui.
Et est-ce que cette comparaison était à l'image de ta garde-robe?
Oui. Alors, j'essaye d'avoir un mélange. Seulement, encore une fois, il faut que je me pose la question du mimétisme. Si je commence à porter que du sportswear de la tête aux pieds, alors que j'ai une facilité à porter du sportswear parce que c'était à la mode dans les années 90, parce que c'est des baskets que j'avais pas eu à l'époque.
Peut-être parce que t'aimes ça aussi.
Oui, oui, mais il faut que je... mais la frontière est fine entre en porter un peu et me faire un total look qui serait presque gênant parce que je reviens dans précisément ce que je dénonce, c'est-à-dire la bobo déguisée en banlieusarde.
Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire bobo? Est-ce que ça a un sens encore maintenant?
Bah, c'est une trentenaire, je reste une trentenaire qui bosse dans la mode.
Tu es une millennials.
Mais il faut que je me pose cette question quand même, c'est-à-dire que je peux le faire, mais il faut que je le fasse de façon pareille, un petit peu consciente, de me dire effectivement, je porte plein de baskets, je pense effectivement c'est que mes parents ne voulaient pas m'en acheter quand j'étais plus jeune, et du coup maintenant je suis ravie de pouvoir avoir enfin telle ou telle paire de Adidas ou de Nike ou je ne sais pas quoi, mais il ne faut pas non plus que je rentre dans une
caricature,
dans une caricature qui serait une caricature sociale finalement, et que je le fasse avec un minimum de recul, que j'emporte un peu, mais que je ne le fasse pas non plus de façon gênante.
Mais en même temps,
gênante.
Si t'es bien dedans.
Je suis bien dedans, mais il faut que je m'en rende compte. Je pense qu'on peut tout porter. Seulement, il faut se rendre compte de avec quel symbole on joue, quel code on envoie consciemment ou pas de soi, qui est-ce qu'on dénigre, qui est-ce qu'on imite. Pour moi, c'est pareil. C'est pour l'appropriation culturelle, c'est encore une autre question. Mais je pense qu'il faut être conscient des codes qu'on est en train de manier, tout simplement. Et alors, il faut savoir en jouer. Il ne faut pas être surpris. Si je choisis de récupérer telle ou telle féminité qui est ultra codifiée et lourde symboliquement, je le fais. Si je veux m'habiller de façon sexy, etc., je peux évidemment le faire. Seulement, il faut être consciente et travailler consciemment autour de ça, de ce que représente la femme sexy dans l'espace public en France, dans un pays méditerranéen, être consciente des enjeux pour choisir de s'en affranchir, de le détourner, de le faire de façon consciente. Mais non, je pense toujours qu'il faut savoir avec quel code on est en train de jouer, tout simplement.
Et donc le matin, quand tu es devant ta garde-robe, tu réfléchis à qui tu vas voir, à ce que tu vas faire?
Bon, moi je me pose pas tellement de questions parce que j'ai passé toute ma vingtaine à me trouver un peu trop grosse. Donc j'ai surtout découvert, avant de découvrir des codes et découvrir des coupes qui m'allaient à peu près. Donc je me suis dit, bon, le slim, c'était une période sombre de ma vie, c'était terrible.
Pourquoi sombre?
Non, je plaisante évidemment, hein, mais c'était une mode qui était... Si tu es autre chose que très mince, c'est quand même terrible. C'est un pantalon qui est comme un legging et tu as poil, en fait. Et si tu as un tout petit peu en chair, c'était la chose la plus impudique que j'ai eu l'impression de jamais mettre. Non, j'étais très malheureuse la première fois que j'ai essayé un slim. Je me suis dit, oh, c'est vraiment injuste. Des années, on va se traîner ça. Donc non, c'est vrai que je pense plutôt aux coupes qui me vont terriblement mal. J'ai pas mal de poitrine, pareil. Donc je me dis, c'est vrai qu'une coupe empire, par exemple, ça a l'air d'une robe de grossesse sur moi. Bon. Donc je porte plutôt des trucs avec une taille et je porte plutôt des pantalons taille haute. Et puis je suis plutôt en chaussures basse et en basket parce que je cours partout toute la journée et que je suis pas en Uber. Non, sinon je reste à peu près...
Mais t'as pas d'interdit vestimentaire? Quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde-robe, par exemple?
Des nattes plaquées et un boubou? Non, je pense... non, ça, pour le coup, ouais, je fais attention. On ne me verra sûrement pas avec des vêtements... Des tissus africains et des nattes africaines.
Du wax.
Et du wax. Mmh. Ouais, non.
Pourquoi? Parce que ça a une connotation?
Bah, consciemment, très consciemment, je vais éviter d'être la meuf blanche en costume à franc-boubou africain. Ça, c'est un peu... Non, pour moi, ça s'inscrit tellement dans une histoire d'un safari occidental qui va piocher des habits un peu partout, des codes, et qui, en même temps, serait la première à pas donner un boulot à une fille africaine parce qu'elle porterait ses vêtements, et que sur moi, ça fait chic, et sur elle, ça ferait blédard. Non, ça, je fais attention. Ça, c'est... On revient de loin quand même en France, hein, je veux dire, il y a des années, Serge Gainsbourg chantait J'aime ta couleur café, les gens trouvaient que c'était un progrès incroyable. Il appelait sa copine qui était eurasienne Bambou. Alors, elle s'appelle pas Bambou, hein, il n'y a pas marqué Bambou sur son passeport. Enfin, donc il faut quand même, on revient de loin, il faut faire un tout petit peu gaffe ce genre d'injonction hyper problématique, parce qu'on rejette la moitié des personnes concernées en se déguisant en eux.
Et c'est pareil dans les tenues, tu parlais en début d'émission des tenues de sportswear. Donc le fait de s'afficher, je te vois souvent en photo et je t'ai croisé plusieurs fois en sweat Adidas,
Oui.
Donc ça, pareil.
Je vais mettre un sweat Adidas. Alors, je porte beaucoup de sportswear, comme je le disais. Je vais mettre un sweat Adidas, oui. Alors, en revanche, je ne vais pas me faire un total look façon PNL avec des baby hair et des faux ongles. Et disons, je le fais parce que je ne pense pas qu'il y a quand même un juste milieu et que le sportswear est un marché énorme. Et en plus, ce ne sont pas des objets de luxe. Du coup, ça me pose déjà moins de problèmes.
Si on parle des baskets, certaines sont très, très chères.
Ouais, mais je porte pas les baskets. Je porte des. Je dépenserai jamais 100 balles pour plus pour une paire de baskets. Mais oui, certaines sont plus chères, mais c'est pas une marque de haute couture qui joue à la basket. Donc déjà de 1, Adidas, oui, parce que c'est pas un truc haute couture qui joue à être Adidas. Et puis surtout, je vais éviter d'être dans un truc vraiment trop littéral et vraiment trop total look, quoi. Parce que là, c'est un tout petit peu. C'est un tout petit peu ridicule, mais si c'est un t-shirt, je me dis c'est quand même vaste le monde du sportswear. On est tous en basket pour un milliard de raisons, d'habits, de fonctions différentes, pour le sport, pour le dimanche, pour être en jogging chez soi. Mais je vais éviter de le pousser jusqu'au maquillage, aux ongles, aux cheveux.
Et quelle est la tenue dans laquelle tu te sens hyper bien?
En pyjama dans mon lit.
Avec ton chat sur les genoux.
Avec mon chat sur les genoux, avec l'ordinateur dans le lit. Non, globalement, en pyjama chez moi. Hein, je passe beaucoup de temps, je suis très casanière. J'écris chez moi.
Tu es en train de casser tous les mythes de la rédactrice en chef, en fait.
Ah, je suis pas chic.
Mode.
Ah ouais, non. Mais de toute façon, depuis 2008, depuis le crash boursier de 2008, les filles n'ont pas gagné l'argent. C'est-à-dire que la rédactrice en chef richissime, je n'en ai pas rencontré, en fait.
Surtout vu la situation de la presse actuelle.
Non, c'est ça. C'est qu'en fait, les filles sont en vélo, en Vespa à la rigueur, mais la fille avec le
chauffeur... Ou très bien mariée.
Ouais, mais du coup, c'est plus un métier rentable pour les gens qui y travaillent, sauf si on fait du consulting, j'imagine, de très haut niveau, ou qu'on est PDG, ou mais la presse même. Non, pas du tout.
Justement, tu es plutôt tote bag ou it bag?
Oh, sac à dos.
Sac à dos.
Sac à dos, non, j'ai des problèmes de dos. Je suis une vieille grand-mère et j'ai mal au dos depuis mes 18 ans. En général, je suis hypochondriaque et j'ai mal partout. Donc, je m'imagine toujours aux scolioses que je peux avoir. Donc, non, je mets des sacs à dos parce que je me dis que je ne vais pas mourir de sciatique, plutôt.
Quel est ton dernier achat?
Mon dernier achat, qu'est-ce que j'ai bien pu acheter? J'ai sûrement des hauts hit tech chez Uniqlo, des sous-vêtements, je pense. J'achète pas des masses de fringues. Et les seuls trucs que j'achète en neuf, parce que j'achète principalement de la fripe, ça va être vraiment des sous-vêtements, des maillots de corps, des culottes, des chaussettes. Donc non, je pense que j'ai acheté. Oui, je pense que j'ai acheté des hauts, des sous-pulls d'Amar et Uniqlo. Qu'est-ce que c'est sexy.
T'es très seconde main, en fait.
Très, parce que pour moi, c'est la façon la plus éthique et abordable de faire quelque chose de green. Genre que c'est des vêtements qui ont déjà existé, qui ne génèrent aucune production, qui n'ont pas d'empreinte carbone. Il faut juste la récup. Pour moi, c'est la vraie solution à beaucoup de choses, parce qu'en fait, la mode green coûte cher. Normal, parce qu'H&M produit dans des conditions désastreuses, brade ses prix, et que du coup, personne ne peut faire concurrence à ça dans des conditions respectueuses. Du coup, malheureusement, ça reste un luxe de s'habiller green, sauf si tu vas... tu vas faire des piles de fripes, que tu les rafistoles, que tu achètes des pulls que tu recoues toi-même.
T'as des bonnes adresses de friperie? Parce que ça,
Alors oui, moi j'aime beaucoup Neptune, pour la vaisselle, pour absolument tout aussi. Neptune, c'est un endroit super, je crois, qui a Montreuil et qui favorise l'aide des gens en réinsertion. Et j'ai acheté tous les meubles chez moi, la vaisselle, des fringues, des bouquins. Et c'est un peu comme Emmaüs, mais en moins connu des bobos. Et c'est formidable. Sinon, tous les marchés aux puces. Guérisol, c'est devenu une espèce de chaîne maintenant, mais on trouve quand même des trucs au prix juste. Hein, les pantalons coûtent 3 euros, je ne sais pas quoi là-bas. Donc,
Quel est ton rapport aux vêtements? Est-ce que tu es très, très attachée? Est-ce que c'est quelque chose en fait qui t'indiffère? Est-ce que si ta garde-robe brûle, est-ce que tu vas nous en faire une maladie ou
Oh, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas très, très attachée à mes vêtements. J'ai juste... Comment dire, je suis... Moi, tant que j'ai des cheveux et du mascara sur moi, je crois que ça va. Non, globalement, j'ai jamais... ça met tellement de temps à s'aimer, à être bien dans sa peau et surtout à s'en foutre un petit peu qu'aujourd'hui, le truc le plus merveilleux, le plus féministe que j'ai réussi, à faire, c'est être pas tellement intéressée par mon poids et ma ligne. Et, bon, évidemment, je suis contente si j'ai bonne mine et que...
que tout va bien.
Je pèle pas et je suis pas encore de pellicule, tu vois, mais globalement, il m'a fallu des années pour me désintéresser un peu d'être jolie ou mince, parce que en fait, je suis juste occupée à faire d'autres trucs. Et à 20 ans, j'étais au régime, je m'en garde. J'étais après l'Angleterre surtout, je me posais un milliard de questions de ah, mais mes cuisses comme si, mes cuisses se touchent. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que je pense que tout se construit et mes. Comme, mais c'est, ça évolue surtout, mais les relations, tout se construit autour de j'espère, pas mon apparence en premier lieu. Oh, c'est super si je suis avec quelqu'un qui me trouve jolie, c'est très bien, mais...
Mais tu es très jolie.
Mais ça, je m'en... Ouais, ça, merci, mais je sais pas, je pense que je suis OK quand je suis maquillée, apprêtée, que, comme la plupart des filles, en fait. C'est-à-dire que je ne me réveille pas en me disant « Waouh !» Mais après, maintenant, je sais mettre de l'eyeliner dans un métro qui bouge et m'occuper de mes cheveux. Ouais. Du coup, j'arrive à un résultat qui me va. Mais j'espère juste que ce ne sera pas le centre de ma vie. Disons.
Que penses-tu, finalement, de l'expression « être à la mode » ?
Oh, c'est absurde. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Être à la mode. Si, en fait, c'est suivre des tendances de plus en plus folles et montrer qu'on est. Qu'on a compris, je pense, le prochain snobisme. C'est 10 personnes dans tout Paris, je pense. Et c'est maintenant, bon, c'est une plus grande foule sur Instagram, mais je ne pense pas que. C'est capter un moment très précis dans le cycle de dégoût-récupération. C'est-à-dire qu'on aime, on adore. C'est popularisé, les masses adorent, donc on le déteste et on le redécouvre. Et c'est vraiment pour moi capter le bon moment de ce cycle où on est en train de redécouvrir ce que certaines personnes sont encore en train de mettre au premier degré et d'en refaire quelque chose au deuxième degré, cynique, drôle, cool, le mulet qui est en train de revenir ou je sais pas quoi. Donc c'est un petit peu cynique.
Alors, quand on parle de Parisienne, tu es en train d'écrire un livre sur la Parisienne qui sortira en septembre prochain.
Oui.
Chez Stock,
chez Stock.
J'ai tout retenu.
T'as tout retenu.
En fait.
Merveilleuse.
Quelle est ta vision de la Parisienne est très, 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 très intéressante.
Ah bah, c'est très gentil. Le point de départ de ce bouquin, c'était de se dire quelle est cette construction mondiale marketing incroyable qu'est le mythe de la Parisienne, qui est un mythe qui a donné des livres comme French Women Don't Get Fat, des cours de parisianisme dans les universités, des coachs en parisianisme, des sections dans des magazines de mode partout, un business incroyable dans les aéroports, des kits de maquillage parisiennes. Qui est d'ailleurs un synonyme de French girl, donc française. Donc c'est finalement, voilà notre visage national. Et voilà notre identité féminine nationale, notre Marianne, notre mascotte, la figure de proue finalement d'un pays centralisé, puissant, à descendance aristo. La voilà toute condensée dans un mythe d'une femme enfant, maigrelette, qui ne travaille pas. Et alors, une fois de plus, je dis pas qu'elle n'a pas le droit d'exister, je suis sûre qu'il en existe. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas une Parisienne, mais des Parisiennes, et une pluralité d'options, et surtout une pluralité de Françaises, de visages français, parce que, de façon plus vaste, ça participe à l'exclusion de 90% des femmes, parce que le sous-texte d'une fille qui te dit « ne t'occupe pas de tes cheveux, ça fera comme si tu avais passé vraiment une nuit de folie hier », alors, encore une fois, ça peut être très joli, cette fille n'a pas les cheveux crépus. Hein, c'est clair, c'est le problème, exact. c'est qu'elle c'est pas une fille avec une touffe et des bouclettes, hein, parce que ça, c'est vraiment un commentaire de cheveux lisses. Encore une fois, c'est j'aimerais qu'on m'explique un modèle qui aille à tous les corps. Ne porte pas de soutien-gorge. Mais le pas de soutien-gorge, mais ça marche au-dessus du B, c'est impossible, en fait. Pareil, si tu veux une cachemire sur peau, donc tu as le temps de... Avec un grand col V. Donc tu as le temps... Tu as déjà essayé de laver du cachemire chez toi et de le faire sécher impossible.
À plat.
Ça veut dire faire sécher à plat, ça veut dire que tu as ou le temps de le faire ou tu l'emmènes au pressing. Donc on n'a vraiment pas les mêmes emplois du temps.
Et un autre détail, il faut avoir de l'argent, le budget pour s'acheter un cachemire.
Donc, exactement, le cachemire, ça coûte cher à entretenir. Le sac Chanel, pire encore, où ils vont te dire vintage de ta grand-mère. Ça veut dire que tu avais une grand-mère qui portait du Chanel. Donc en plus de ça, il faut surtout pas être parvenu comme on disait. Donc il faut venir d'argent, l'afficher mais pas trop. être... Il y a un sous-texte qui est très hétéronormé aussi, habite-toi dans les vêtements de ton mec, et t'es genre, bon déjà, donc, un, je suis hétéro, deux, j'ai un mec, bon, tu n'as pas besoin d'avoir un uniforme de travail, parce qu'en fait, je, pareil, porter un panier en osier et des talons aiguilles et un perfecto et des vêtements d'homme, je ne sais pas dans quel bureau tu travailles, mais c'est quand même un nombre d'industries limitées où tu peux arriver habillé comme ça, et ça dit long aussi sur ta classe sociale, sur combien tu bouges, sur ton territoire, donc tu, vraiment,
avec
tu évolues.
Avec des talons 12 aussi, c'est pas avec possible des talons 12,
tu vas vraiment pas très loin, tu ne prends pas les transports en commun, tu n'évolues que dans deux ou trois arrondissements maximum, donc en creux, on lit surtout une grande histoire d'exclusion. Et c'est ça qui me pose problème. Et donc, dans le livre, je vais avoir un chapitre par un mot que je trouve problématique, qui finalement dénigre et désigne un pan entier de la population. Il y a des mots qui me fascinent en France, comme le mot cagole était super intéressant, le mot parvenu, donc le mot beurette, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que ça voudrait dire fille arabe, mais en même temps, ce n'est devenu qu'une fille hyper sexualisée, dénigrée, finalement de trois pays d'anciennes colonies. Enfin, c'est extrêmement gênant parce que ça empêche aussi tout métissage dans l'idéal parisien, tout progrès social, toute bourgeoisie non blanche ou non française. Donc, le mot gazelle, qu'est-ce que c'est horrible. Donc, et tout ça, on voit une organisation... en silence d'un rejet de beaucoup d'âge, beaucoup de corpulence, beaucoup de couleur de peau, beaucoup d'origine sociale qui est encore liée au fait qu'aujourd'hui, quand il y a très peu de Miss France Noire, et quand elles ont des Miss, il y a des Miss France Noire, elles se font insulter comme Sonia Roland qui avait reçu des enveloppes exact. De merde. C'est formidable. Voilà ce que ton visage m'évoque, hein, ce qui m'a marqué sur l'enveloppe. Qui a une idée de l'assimilation et qui a aucune façon de le faire à côté. En Angleterre, on a des success stories de filles qui portent des hijabs à la télé-réalité, et ça pose aucun problème. En France, ce serait impensable. Donc, ça empêche des Mariannes d'autres pays, d'autres descendances, et c'est problématique vu qu'on est un pays qui est extrêmement multiculturel, qui est extrêmement riche, qui bouge beaucoup, et puis qui est un ancien pays colonisateur. Du coup, on peut pas dire que ce soit le règne des franco-français aujourd'hui, donc pas le règne, que ce soit que franco-français. Ouais, voilà, donc c'est partir du point de départ de ce personnage pour essayer de comprendre le portrait en creux de la française qu'on ne veut jamais voir.
Finalement, ça exclut aussi les provinciales.
La province, évidemment. C'est très marrant. C'était j'avais fait un article là-dessus sur cette expression qu'ont les Anglais qui s'appelle Is he gay or is he French? Et donc, est-ce qu'il est pédé ou est-ce qu'il est français? Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le Parisien paraît efféminé aux yeux du monde, non pas parce qu'il est gay, mais parce que il a une bien plus grande hantise de faire beauf que de faire homosexuel. Et qu'en fait, le Parisien bobo n'est pas terrifié de faire pédé, entre guillemets, ça l'embête pas plus que ça, en fait, parce que c'est vraiment, c'est pas le
haut de priorité. Il y a une certaine confusion des genres, hein, dans ouais, la mode bobo.
Mais ce qu'ils
justement
ne font pas, c'est beauf. Et alors ça, beauf, c'est un mot qui est terrible, ça veut dire à la fois quelqu'un qui vient pas de Paris, qui vient... d'autres choses que de la grande bourgeoisie. Donc il y a un mépris de la province. La province, mot quand même très gênant, ça veut dire quoi en fait? C'est tout sauf Paris. C'est une masse distincte, une masse un peu difforme comme ça.
En fait, il faut prendre ton passeport pour aller en province. C'est un peu ça.
Non, mais c'est vraiment ça. Mmh. Avant, c'était n'importe quoi au nord de périphérique. Aujourd'hui, c'est post-gentrification. C'est, tout leur semble être une brousse géante, en fait. Ils voient à peine la différence. Ils ne sont jamais placés les villes sur une carte. Oui, ouais, évidemment, il y a la provinciale et une autre figure complètement exclue. La cagole en fait partie.
Alors, tu disais tout à l'heure que les réseaux sociaux, ce n'était pas si mal que ça, finalement. Mais ne trouves-tu pas quand même que ça véhicule une mode qui est de plus en plus normée? Il faut être justement mince, blanche, avoir un intérieur suédois, avoir ton sac Chanel. Ça revient un peu au mythe.
Oui.
Finalement, est-ce que ça. Mais en fait, pas faire un parallèle avec le mythe de la parisienne.
Je pense
que ça exclut quand même pas mal.
Instagram, c'est d'une part un miroir des choses qui se passent. Donc, ce mythe que tu décris là, en fait, ça a toujours été la une de tous les féminins. Rappeler que quand il y a une femme non blanche en couve d'un magazine de mode, les gens vont te dire qu'il ne se vend pas. Bon,
ça c'est vrai, ça se vérifie.
Apparemment, mais après c'est une éducation à faire, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Dans ce cas-là, Lorley et le Christon Blanche s'identifient pas non plus à la fille de la couverture, hein, donc il faut voir à qui on parle et à quel marché. Ça veut dire qu'évidemment tout le monde a envie de se reconnaître, mais ça veut dire que de facto t'es pas très intéressé que la fille non blanche se reconnaisse dans ton magazine, vu que tu mets en priorité.
C'est un autre débat.
Hein. C'est un autre débat, mais
regarde les spéciales rondes.
Mais de toute façon,
ça veut dire les numéros spéciales rondes.
Moi, c'est terrible. Et ça voudrait dire déjà, il faut faire un effort vu que c'est ce qu'ont toutes les filles non blanches toujours eu à faire. Faudrait faire un effort de nous aussi. En tant que meuf représentée absolument partout, de pouvoir un tout petit peu tordre son regard et sa projection et essayer de trouver, d'arriver à s'identifier avec des valeurs qui ne sont pas des valeurs aussi littéralement physiques, de filles d'un peu partout. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas admirer la beauté de Lupita Nyong'o, qui est juste objectivement une meuf canon ? Je ne suis pas obligée d'avoir sa couleur de peau pour me dire « Waouh, c'est un vrai canon de beauté ». Donc je pense que d'une part, ouais, ça a montré beaucoup de ça a évidemment renforcé un genre de discours, un genre de vie, un genre d'influenceuse avec un cappuccino, avec
sur une couette blanche,
de cœur, des toasts à l'avocat. Et après ça, ça a permis aussi à des communautés qui ne se seraient jamais rencontrées en vie réelle de se réunir. Donc, il y a énormément de communautés parallèles qui se sont formées à travers le monde. Donc, il y a quand même un pouvoir fédérateur via les réseaux sociaux où on peut trouver une audience qu'on n'aurait pas trouvée à côté de chez soi, qu'on n'aurait pas trouvée à la porte à côté.
Toi, ce serait plutôt du bon usage des réseaux sociaux.
Je pense que ça permet tout et son contraire, mais je pense que ça a une façon de sortir, de donner la parole aux médias, d'enlever la parole aux médias dominants purement, et qu'on peut avoir un compte comme un podcast qui marche extrêmement bien, qui a finalement plus d'écoute qu'une radio nationale. Et ça c'est des messages qui sont plutôt super. Et après, on peut, à soi, à chacun, de se réapproprier ce que la culture de consommation et la culture Instagram fait de façon presque comique, d'en faire, de dénoncer plein de choses, d'en rire, ben, comme tu le fais, de te montrer face caméra, sans maquillage, en train de parler hyper franchement, alors que c'est une culture qui vénère la beauté et qui facilite la beauté telle qu'on l'entend classiquement, donc avec des filtres pour te donner meilleure mine, plus jeune, machin. Tu te montres sans filtre ni rien, t'es genre « Coucou !» Finalement, c'est... Ah bah voilà, ça réveille le chien. Finalement, tu peux en faire un truc plus doucement subversif et qui démontre exactement vers quoi le médium essaye de te pousser, parce que tout médium a des normes implicites et en quoi tu t'en détournes, tu vois. Dire bah ouais, c'est la merde, j'ai pris 5 kilos à Noël, j'aimerais
trop de dinde.
Voilà, ça c'est un double menton. Non, je pense qu'on peut en rire un peu Donc, je pense que chaque humain est conscient aujourd'hui de ce petit potentiel de détournement. Et tant qu'on en joue de façon un peu éveillée, amusante, moi, je suis très contente d'entendre des voix alternatives. Et sans réseaux sociaux, on n'aurait pas eu des mouvements comme MeToo, Balance ton porc.
Il n'y aurait pas Chiffon non plus.
Il n'y aurait pas Chiffon, c'est sûr. Il n'y aurait eu que des grandes dominantes qui ont accès à une tribune dans le monde pour ouvrir leur gueule. Et il n'y aurait pas eu de réponse potentielle parce qu'on n'avait que ces médias-là avant pour parler. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, on peut dire... On peut avoir une émission comme la tienne qui finalement a des rankings super hauts sans passer par le titan qui est Radio France, tu vois. Et ça, c'est très bien. C'est des médias alternatifs comme était les Fanzines à une époque.
Exactement. Et les radios libres à une autre époque encore.
Les radios libres, les radios pirates, ce que Rins France était à une époque. Et ça, c'est une des voix qui sont super importantes, je pense.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Est-ce que c'est ou le chic qui s'ignore ou le chic intelligent, mais c'est je pense quand il y a une continuité parfaite entre apparence et esprit, c'est-à-dire que c'est une continuation de tout ce qu'on a dans le crâne qui vient très très naturellement se montrer sur notre corps. Moi j'aime beaucoup Joan Didion par exemple, qui a beaucoup écrit des descriptions hyper exhaustives de chacun de ce que ces personnages de bouquins, de textes portaient tout le temps, à tout moment, même dans les moments les plus tragiques. Et elle disait le style, c'est prendre la responsabilité de son corps et de son être. Elle disait toujours qu'elle se mettait en robe, qu'elle se coiffait avant de travailler, mais qui était en continuation avec son époque, ce qu'elle pensait, un reflet de ce qu'elle avait envie de sentir, une humeur dans laquelle elle essayait de se mettre, des couleurs, en reflet ou en accompagnateur à ce qu'elle vivait ce jour-là. Donc, oui, je pense que c'est un, si on dit un esprit sain dans un corps sain, un look libre dans une tête libre, quelque chose comme ça.
C'est joliment dit. Oh, merci. Et quel est le vêtement qui sublimerait une femme, selon toi?
Celui dans lequel elle se sent bien. Celui dans lequel elle se pas qu'elle se trouve canon, mais qu'elle se sent merveilleusement bien, qu'il y a un mélange des deux. C'est-à-dire qu'un vêtement qui te fait mal ou qui te tient pas chaud, c'est franchement inutile. Un vêtement qui est que une espèce de couverture géante, bon, c'est sympa, mais... Et non, je pense que c'est vraiment la rencontre de se sentir bien et de se sentir puissante et formidable en même temps. Et surtout qu'il y a une relation, je pense, invisible au vêtement, ou que toi, tu es au courant de combien tu es merveilleusement bien dans telle ou telle pièce. Qui te gratte pas, quoi.
Pas mal. Bon, allez, dernière question.
Vas-y.
Peux-tu nous parler de ta fascination pour Kardashian?
Oh, j'adore Kim Kardashian. Pour moi, Kim Kardashian, c'est une fille qu'on pourrait nommer ethnically ambiguous, donc à l'ambiguïté ethnique. Alors, les Américains ne savent pas très bien où la placer. Pour nous, c'est une fille qui est arménienne, donc qui est une femme orientale. Et c'est une fille qui est venue symboliser la fille basanée ignorée du luxe, pour moi. C'est-à-dire que
au départ, elle était ignorée du luxe. Tu crois qu'elle l'est encore, hein?
Oui, mais encore aujourd'hui,
elle va être copine avec Balmain, quand même.
Oui, mais elle reste la fille qui a des formes qui ne sont... C'est l'anti-parisienne, même si, finalement...
C'est l'anti-parisienne, par excellence.
C'est l'anti-parisienne, par excellence.
Je crois qu'elle est un peu fâchée avec Paris, en plus, hein, depuis que lui était arrivée.
Oh, bah, ça ne m'étonne pas, la pauvre. Mais non, ce qui est très intéressant avec elle, ce qui me fascine, c'est que, ici en France, on la lit comme une fille... j'imagine nord-africaine ou orientale. En Allemagne, elle est lue comme une fille turque. En Amérique latine, il la voit comme une latino. Et partout, ça va être cette fille qui est un tout petit peu basanée et ignorée du luxe. Et c'est, est-ce que c'est la fille, est-ce que c'est, pour moi, je lirai à tout jamais l'immigré de deuxième génération, ou la fille qui est un petit peu partout, qu'on n'arrive pas, qui est...
Insaisissable
et étrangère à l'intérieur d'un pays qui ne veut pas vraiment d'elle. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime bien tout ce qu'elle raconte, c'est que grâce à elle aussi, quand même, il y a eu des formes qui ont été remises à la mode, des teintes de peau qui étaient remises à la mode. Elle porte du col, elle a du maquillage un peu plus foncé. Et je pense qu'elle parlait à énormément de filles qui ne se reconnaissaient pas dans ces normes maigrichonnes d'avant. Et qu'elle revendique justement et extrêmement fièrement de n'avoir pas perdu un gramme. Et puis en plus, elle fait de tout ce que la société déclare niais une forme de force. C'est-à-dire qu'elle porte très fièrement sa sexualité, elle porte très fièrement son... Elle montre que rien du tout, ça peut être absolument tout. Elle me dit absolument pas.
Tu ne l'as pas interviewée? Non, tu l'as jamais croisée?
C'est mon rêve. Une fois, j'ai vu Kris Jenner et j'ai fait un selfie avec elle. J'étais hyper contente, mais ça s'arrête là. Non, elle dit je suis toujours très focus quand je travaille. Et là, elle est en train de se maquiller. Elle dit chut, ne me parlez pas, je suis en train de travailler. C'est hyper bien. Et en fait, c'est vrai que c'est ça son travail. Enfin, elle a tout compris. Elle a capitalisé sur l'ère de l'influenceuse. Elle gagne plus d'argent que son mari, mais c'est génial. C'est dans un matriarcat, dans une espèce de truc d'une mafia de femmes où il n'y a pas un homme à l'horizon. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça super. Elle a 35 ans et pas 25. Elle a beaucoup mieux à 35 qu'à 25. Elle a réussi à tirer le mieux d'une société de l'absurde et une société de l'éphémère, mais très bien. Je la trouve formidable. Bonjour Kim.
Merci à toi Alice.
Merci à toi et merci à Kim Kardashian.
On essaiera de lui transmettre le message.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.